Le quart d'heure assurance avec les agents d'assurance, des femmes et des hommes proches de vous, proches de chez vous. Jérôme Debardis.
Comme chaque mardi, nous retrouvons notre monsieur assurance, Jérôme Debardis. Bonjour à vous.
Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
Et en ce 11 janvier, on va parler de catastrophes naturelles. Alors, dans quel cadre cette assurance rentre en compte? Est-ce que le vent suffit?
Alors, c'est un sujet éminemment complexe. Voilà, donc je vais demander à tout le monde un peu, enfin même beaucoup d'attention. Je vais vous lire tout d'abord trois phrases qui sont le texte de loi. Au terme de la loi, on considère comme effet des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables. Voilà, ces quatre mots vont circonscrire un peu notre entretien d'aujourd'hui. Vous allez voir qu'ils ont tous leur importance.
Donc dommages dans matériel direct,
non assurable.
Non assurable, on pense à par exemple l'assurance habitation.
Oui, alors vous venez par exemple de dire est-ce que le vent ça suffit? Eh bien non, le vent n'est jamais une catastrophe naturelle. Le vent, c'est la tempête, hein. La tempête n'est jamais une catastrophe naturelle. La tempête, elle est assurable. Ce qui n'est pas assurable dans une tempête, ce sont des effets secondaires comme, par exemple, des inondations, les coulées de boue. Ça, c'est pas assurable. Et ça va rentrer dans le régime des catastrophes naturelles. C'est compliqué, hein, ce que je vous dis là. Mais c'est comme ça que ça se passe.
Vous voyez, on commence une chronique avec un texte de loi. On essaye de faire au mieux pour que tout soit accessible.
Ça va pas être très simple, ça, aujourd'hui.
Alors, on s'accroche tous ensemble. On met sa ceinture, voilà. C'est bon. La ceinture est attachée. On a parlé de dégâts matériels. Est-ce que ça peut aussi, par exemple, s'appliquer aux dégâts physiques?
Alors non, les catastrophes naturelles, ça n'est pas une garantie. Ça n'est pas une garantie destinée à réparer ou à compenser un dommage physique. On a vu dans une chronique précédente, dans la garantie des accidents de la vie, que effectivement l'accident lors d'une catastrophe naturelle, par exemple, vous allez prendre une tuile sur le toit, sur la tête parce qu'il y a eu justement un coup de vent. Et voilà, vous allez prendre un arbre dessus, etc. Tout ça va être garanti par la GAV. Bon. On va rester sur la catastrophe naturelle qui est une garantie de dommages matériels et pas de dommages physiques. Alors, de dommages immatériels non plus. Voilà, continuons.
On est arrivé aux dégâts, ça y est, la coulée de boue est arrivée chez moi. Comment ça se passe, on va presque dire, étape par étape? Au début, une fois que la catastrophe est arrivée, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut de suite appeler son assurance et dire « Mon Dieu, j'ai eu une catastrophe naturelle chez moi », qu'est-ce qu'on fait ?»
Bon, là, on parle d'un dommage immédiat sur un événement précis, ponctuel. Effectivement, très rapidement, d'abord, souvent les médias s'y intéressent puisque c'est un dommage qui doit faire un peu de bruit. Hein. Une catastrophe naturelle, c'est quelque chose d'important, donc les médias vont s'y intéresser. Immédiatement, il faut effectivement saisir son assureur, qui va peut-être vous envoyer rapidement quelqu'un de façon à faire un premier constat et puis à commencer à dégager, déblayer, assécher. Voilà, il faut aller rapidement, quoi. C'est un dommage qui est théoriquement assez spectaculaire.
Est-ce qu'on a un temps limité? Par exemple, si j'attends 2-3 semaines avant de le déclarer le sinistre à l'assureur, comment ça se passe?
Alors, de toute façon, un sinistre ne sera considéré comme catastrophe naturelle que lorsqu'il y aura eu un arrêté interministériel paru au journal officiel. Alors, ça peut paraître une procédure très lourde, mais c'est cette procédure-là qui va être utilisée. Et dans le cadre d'un dommage ponctuel, comme nous venons d'en parler, l'arrêté interministériel peut paraître dans les 10 jours, 15 jours, 3 semaines. Entre-temps, évidemment, on aura pris les mesures nécessaires et tout le monde sait qu'il y aura cet arrêté sur la partie inondation coulée de boue, par exemple. Tout le monde sait qu'il y sera. Et donc, les assureurs commencent déjà à faire des pré-indemnisations. Voilà. Mais il existe un deuxième cas de figure de catastrophes naturelles, qui sont des catastrophes naturelles sur le long terme et qui sont extrêmement importantes, puisque la deuxième cause en France, hein, c'est la sécheresse. La sécheresse qui va faire bouger les bâtiments par rétractation et réhumidification du sol. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Et lorsque vous aurez une maison craquelée, l'expert qui va venir va demander à la mettre en observation. Ça peut prendre un an de mise en observation. Hein. Donc là, c'est un autre sujet. Mais il faut toujours qu'il y ait un arrêté interministériel à un moment donné.
Donc il faut qu'il y ait un arrêté ministériel paru dans le journal officiel.
Paru au journal officiel, absolument. Alors, ce sont des montants colossaux, hein. Il faut imaginer qu'entre 1982 et 2020, on a versé au titre des catastrophes naturelles 41 milliards d'euros. 41 milliards d'euros. Et la sécheresse dont je vous parlais à l'instant, à elle seule, c'est un peu plus de 15 milliards d'euros. Et en inondation, un peu plus de 21 millions d'euros. Voilà, ce sont des chiffres qui vous posent le sujet quand même.
Oui, c'est pas des petites sommes.
Non.
Alors comment on fait les démarches? Au moment où ça arrive, on est souvent désorienté.
Ah
Est-ce
oui,
qu'il y a
bien sûr.
quelqu'un qui va venir et qui va nous aider, quelqu'un de
Bah,
l'assurance, parce que l'expert arrive de suite pour établir les dégâts?
alors, bon, bah, l'expert arrive de suite. Encore faut-il qu'il puisse accéder à la zone. Vous savez,
Oui.
c'est vrai aussi. Moi, j'ai été coordinateur de catastrophes naturelles à un moment donné dans ma vie professionnelle. Nous avions obtenu un blanc-seing pour intervenir directement sur les lieux des sinistres, mais sans cela, on interdit. Il n'y a que la sécurité civile, les pompiers qui peuvent intervenir à l'intérieur d'une zone sinistrée. Donc compliqué pour l'assureur aussi de se rendre compte de la réalité de l'importance du dommage. Donc maintenant, nous pouvons, assureurs, accéder aux zones et enfin c'est pareil logique quoi, il faut pouvoir être efficace. Et donc ensuite la déclaration doit être faite. On vous dit qu'elle doit être faite dans les 10 jours après la publication de l'arrêté interministériel. Oui, ça c'est le texte de loi. J'ai jamais vu un assureur dire ah ben non monsieur, ça fait 11 jours, votre garantie n'est plus acquise. Jamais.
Ça n'est jamais arrivé.
Non, ça n'est jamais arrivé. D'ailleurs, ça n'arrive jamais. En fait, pour faire une petite digression, les délais qu'on vous donne lorsqu'on vous dit vous avez 5 jours pour déclarer un vol, ou 2 jours pour déclarer un vol, 5 jours pour déclarer un dégât des eaux, tout ça c'est vrai et c'est faux. C'est vrai, factuellement, on vous dit voilà, c'est le texte. Mais dans la réalité, si vous n'avez pas eu la possibilité pour une raison autre que la négligence, quoi, si vous n'avez pas eu cette possibilité, eh bien évidemment, l'assureur ne vous opposera pas un délai. Voilà, encore faudrait-il que ce délai d'ailleurs lui ait causé un dommage. Enfin, ça c'est un autre sujet, mais c'est la loi.
Une
Non, non, mais
chronique bien compliquée aujourd'hui, si vous voulez
oui,
plus.
je suis désolé.
Non, mais c'est le thème qui est comme ça, mais on arrive avec vous à essayer de comprendre un petit peu tout ça. Si vous voulez, vous qui nous écoutez, plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération française de l'assurance. Et une dernière question, tant qu'on vous a sous le coup de Jérôme Debardis, est-ce que les assurances font-elles de la prévention en amont du contrat? Est-ce qu'elles disent, attention, quand vous arrivez ici, c'est une zone inondable ou c'est une zone à risque à la montagne? Est-ce qu'elles elles
Oui,
préviennent?
alors les assureurs ont effectivement un rôle important en matière de prévention. Ils ont mis au point des observatoires. Ils ont repéré, enfin ils ont repéré, c'est pas eux qui l'ont repéré, mais ils ont collationné toutes les informations sur les sites à risque. Et évidemment, d'ailleurs, c'est pas seulement eux qui doivent faire de la prévention. Je pense que toute personne, tout constructeur ou tout acheteur de maison devrait s'intéresser aussi à l'assurabilité de son risque. On voit de temps en temps à la télévision des gens qui disent, oh oui, mais vous savez, c'est la cinquième fois en 10 ans. Comment voulez-vous que ça tienne, enfin qu'un assureur puisse considérer qu'il peut assurer un risque qui va être sinistré gravement une fois tous les 2 ans? Et pourtant, on est bien obligé de l'assurer. Donc encore une fois, Bureau central de tarification, je vous l'ai dit, mais enfin, surtout, il faut au départ essayer de comprendre pourquoi un risque, pourquoi un bâtiment est assurable ou pas, quoi.
Voilà, beaucoup de questions encore à la sortie de cette chronique, mais je le rappelle, Fédération française des assurances pour avoir
Absolument.
un petit peu plus d'informations. C'est une chronique, ne suffit pas. Merci beaucoup, Jérôme de Bardis.
Eh bien, à bientôt, Jonathan, à
Eh
bientôt
bien,
à tous.
la semaine prochaine.
C'était le quart d'heure assurance avec les agents d'assurance. Des femmes et des hommes proches de vous, proches de chez vous.